En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 26 novembre 2007, Jean-Claude Berthélémy, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a prononcé une communication intitulée « Santé et développement en Afrique » devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Retrouvons-le en salle des séances.
Le point de départ de cette communication est une interrogation de nature historique, celle de savoir quels facteurs ont différencié à partir des années 50 les pays qui ont émergé des autres pays pauvres. La littérature économique abonde d'hypothèses sur les facteurs qui pourraient expliquer le miracle asiatique, comparé à l'échec du développement dans la grande majorité des pays africains. Parmi toutes les explications possibles, la santé et l'éducation ressortent très nettement comme différenciant dans les années 50 les pays émergents d'Asie des pays africains. Comme nous essaierons de le montrer, cette analyse permet d'aborder sous un angle nouveau les éléments d'une controverse récente entre économistes sur les effets de la santé sur la croissance économique, les uns lui attribuant un rôle central, d'autres lui déniant toute influence significative sur le progrès économique. Cette analyse ne donne certainement pas une recette universelle pour identifier les politiques de développement qui pourraient aider les pays africains à sortir à leur tour de la misère. Elle permet néanmoins de mettre l'accent sur le fait qu'une grande majorité de ces pays est encore aujourd'hui, malgré quelques progrès recensés au cours des dernières décennies, dans une situation de pénurie extrême en matière de services de santé. Cette pénurie est telle qu'il serait illusoire de vouloir aider ces pays à se développer sur le plan économique tant que ce facteur de blocage n'aura pas été levé. Beaucoup de commentateurs ont conclu la nécessité d'augmenter fortement l'aide internationale à l'Afrique dans le secteur de la santé. Cette approche est cependant d'une pertinence limitée, et ce, de plus en plus, compte tenu de l'importance des efforts qui ont déjà été consentis pour accroître cette aide. Au-delà de la contrainte financière, bien d'autres défis doivent être relevés. Celui de la faiblesse des ressources humaines et des mécanismes d'incitation dans les services de santé publique, celui de la concentration des financements dans des grands programmes verticaux, notamment de lutte contre l'épidémie du VIH-SIDA, au détriment d'autres dépenses, celui de la nécessité d'une approche intégrative, intégrant la santé, l'éducation et d'autres services publics de base dans une même stratégie qui fait cruellement défaut en Afrique, celui de l'absence de coordination de l'aide, celui enfin de l'insuffisante prise en compte des considérations d'équité dans les politiques de santé publique des pays africains. Dans un premier temps, nous discuterons des relations d'interaction qui existent entre le développement économique et les progrès en matière de santé, pour montrer la place centrale qui peut être occupée par ces interactions dans l'explication du sous-développement économique. Dans un second temps, nous étudierons les différents aspects des politiques de santé en Afrique qui peuvent participer au succès ou à l'échec des efforts entrepris pour améliorer la situation de ces pays dans ce domaine. Les relations entre la croissance et les progrès en matière de santé font l'objet d'une controverse à la fois théorique et empirique entre les économistes. On observe assez naturellement qu'il y a une corrélation entre les niveaux de revenus par habitant et les niveaux de santé. Cette corrélation s'observe aussi bien quand on considère l'espérance de vie que les taux de survie des adultes et des enfants. Cependant, il faut déjà noter que cette relation n'est pas linéaire. Entre les pays, les 20% les plus pauvres et les pays du deuxième quintile dans la distribution internationale des revenus, le taux de survie des adultes au-delà de 60 ans passe de 54% à 81%. Pour des revenus supérieurs, les progrès de taux de survie deviennent beaucoup plus marginaux. Par ailleurs, cette relation ne nous dit rien sur le sens de la causalité éventuelle entre ces deux variables. En réalité, la causalité est bidirectionnelle. Nous disposons de plusieurs analyses permettant d'expliquer pourquoi la santé peut influencer les performances économiques et d'autant d'arguments selon lesquels, en retour, le progrès économique entraîne celui de la santé. Concernant le premier point, on sait tout d'abord qu'au niveau microéconomique, l'état de santé des individus influence leur capacité productive. Dans différents pays, on observe un lien positif entre, d'une part, la taille et l'indice de masse pondérale des individus et, d'autre part, leur salaire. Un lien existe aussi entre ces mêmes indicateurs et la participation des individus au marché du travail. De même, un lien négatif a été trouvé, notamment en Afrique, entre la prévalence de certaines maladies comme la bilharziose, l'anémie ou le paludisme et la productivité des agriculteurs. L'état de santé peut exercer une influence sur les performances économiques également par des canaux beaucoup plus indirects. Une meilleure santé et une espérance de vie plus longue sont autant d'incitations à investir dans l'éducation, dont les rendements sont alors mécaniquement plus élevés. Les conditions de santé des enfants améliorent les taux de scolarisation et les résultats scolaires et réduisent l'absentéisme des enfants à l'école. Un exemple parmi d'autres de ce lien entre santé et éducation est fourni par une expérience menée au Kenya qui a montré que l'administration de vermifuges aux enfants était l'une des actions les plus efficaces pour améliorer le rendement du système scolaire. D'autres canaux ont été étudiés. Une plus grande longévité conduit à une augmentation de l'épargne, nécessaire pour couvrir les besoins des individus au-delà de l'âge de la retraite. Il y aurait également un dividende démographique associé à l'amélioration des conditions de santé, la réduction de la mortalité infantile jouant le rôle de facteur déclenchant de la transition démographique à travers son effet de réduction de la fécondité. Ce point est parfaitement illustré par le cas des pays de l'Asie du Sud-Est. Il peut y avoir enfin une complémentarité entre capital humain et capital physique. Les entreprises investiront d'autant moins que leur personnel peut être affecté par des problèmes de santé. Un exemple est donné dans la littérature. Au Botswana, les firmes multinationales auraient réduit leur plan d'investissement depuis la propagation de l'épidémie du VIH-Sida. À l'inverse, le progrès économique peut lui-même être à l'origine d'amélioration des conditions de santé. De manière évidente, des individus pauvres ne peuvent pas faire face aux dépenses de médicaments et de soins de santé dont ils pourraient avoir besoin. L'effet du revenu sur la santé passe aussi par le statut nutritionnel. Par ailleurs, le développement des services de fourniture d'eau potable et d'assainissement exerce un effet positif sur les conditions de santé de la population. La fourniture de tels services doit faire l'objet de programmes de développement dans les services publics, mais ces programmes sont entravés par la faiblesse de revenus et des ressources économiques. Les fluctuations économiques peuvent aussi avoir des conséquences négatives à long terme sur la santé, comme cela a été montré, par exemple, dans une étude récente sur l'Inde. Différents chercheurs ont contribué récemment à l'analyse de la relation qui pourrait exister, au niveau macroéconomique, entre l'amélioration des conditions de santé et la croissance économique, en utilisant des méthodes économétriques appropriées pour contrôler les risques de biais liés à la simultanéité de ces deux évolutions. Ces travaux ne permettent cependant pas de déboucher sur un consensus. Les uns, concluant à l'existence d'une forte influence de l'amélioration des conditions de santé sur la croissance économique, d'autres, concluant que l'amélioration des conditions de santé n'a eu strictement aucune influence significative sur la croissance. Pour tenter d'aller un peu plus loin, nous proposons une approche alternative visant à répondre à une question un petit peu plus limitée. Est-ce que les progrès de santé sont à même d'influencer qualitativement la trajectoire de croissance des pays en développement, non pas quantitativement. Notre intuition est que la relation non linéaire entre santé et revenu par habitant correspond à l'existence d'un véritable saut qualitatif, à l'occasion duquel des progrès initiaux dans les conditions de santé auraient permis un décollage de la croissance dans les pays émergents. Cette intuition a des bases théoriques solides. En effet, dès lors que l'on accepte l'existence d'une causalité réciproque entre la santé et les performances économiques, il est tout à fait possible d'observer une multiplicité d'équilibres. Le passage d'une situation avec faible revenu et mauvais état de santé de la population à une situation caractérisée par des revenus plus élevés et des conditions de santé proches de celles des pays développés s'interpréterait alors comme un saut qualitatif d'un équilibre bas à un équilibre haut. Une telle spirale vertueuse entre santé et développement économique a pu être observée en Asie de l'Est au cours des dernières décennies. À l'inverse, les pays africains sont dans une grande majorité enfermés dans ce que l'on peut appeler un piège de sous-développement. Cet enlisement dans la misère apparaît non seulement au niveau macroéconomique, mais aussi au niveau microéconomique. On peut alors parler d'un piège de pauvreté. Un élément de preuve de cette thèse peut être trouvé dans l'observation d'une distribution bimodale, des indicateurs de santé dans le monde. Une minorité très significative de pays conserve un état de santé médiocre, correspondant à une espérance de vie plafonnant autour de 45 à 50 années en 2004, tandis que la majorité des pays convergent vers une espérance de vie qui était déjà à la même année au moins de l'ordre de 70-75 ans. La difficulté avec cette approche reste qu'il y a un grand nombre d'explications alternatives pouvant justifier l'existence de pièges de sous-développement, au-delà des interactions réciproques entre santé et développement économique. Les interactions entre capacité à épargner et pauvreté, entre transition démographique et développement économique, entre éducation et croissance, entre conflit et pauvreté, constituent quelques exemples bien connus de sources potentielles alternatives de pièges de sous-développement et aussi de pièges de pauvreté. Il nous faut donc détecter dans les évolutions historiques quels sont les facteurs qui ont le plus probablement contribué à maintenir les pays africains dans un piège de sous-développement au cours des dernières décennies, alors que d'autres pays qui étaient initialement comparables en termes de revenus par habitant, principalement en Asie, réussissaient dans le même temps leur décollage économique. Notre idée de départ est qu'un pays qui aurait échappé au piège de sous-développement devrait avoir une dynamique de croissance très particulière. Dans un premier temps, il devrait avoir suivi un sentier de convergence vers un niveau de revenu très bas, puis il devrait avoir connu une accélération de sa croissance, lui permettant de converger par la suite vers un niveau nettement supérieur. L'application systématique de ce principe nous a permis de détecter 13 pays initialement très pauvres qui ont connu une telle dynamique. Ces pays sont majoritairement en Asie, ce sont les pays émergents d'Asie que vous connaissez tous, à l'exception de 4 pays, le Botswana, le Lesotho, la Tunisie et la République dominicaine. Pour tous ces pays, que j'appellerai maintenant émergents, le rebond de croissance démarre dans les années 60. Nous avons alors comparé ces pays avec les autres pays de même niveau de vie en 1950 et au début des années 60. La comparaison systématique des données structurelles des deux groupes de pays, les pays émergents et les pays non émergents, livre une conclusion dénuée de toute ambiguïté. Parmi les variables qui auraient pu justifier un piège de sous-développement initial, seules les variables de capital humain, qu'il s'agisse de la santé ou de l'éducation, différencient ces deux groupes de pays dans les années 50 et au début des années 60. En 1950, pour des revenus encore une fois comparables, les habitants des pays qui allaient devenir émergents avaient une espérance de vie de 46 ans, supérieure de 9 années à celle des autres pays pauvres. Le taux de mortalité infanto-juvénile de leurs enfants était de 160 pour 1000 contre 280 pour 1000 dans les autres pays pauvres. Leur taux de scolarisation primaire était de 60% au début des années 50 contre 20% dans les autres pays pauvres en moyenne. Par contraste, dans les années 50 et au début des années 60, il n'y avait aucune différence significative entre les deux groupes de pays en ce qui concerne les taux d'épargne et d'investissement, l'existence de conflits internes ou d'autres variables susceptibles d'influencer les performances économiques, comme le degré de démocratie ou les conditions géographiques. Une critique que l'on peut faire à l'encontre de cette démonstration est que les pays africains ont tout de même réalisé quelques progrès entre 1960 et 1980 en matière de santé et d'éducation, les rapprochant de la situation des pays émergents dans les années 50, du moins pour un certain nombre d'entre eux. Pour autant, pratiquement aucun pays africain n'a vraiment décollé sur le plan économique dans les 30 dernières années. Plusieurs facteurs concourent à expliquer ce paradoxe apparent. Certaines de ces explications ne relèvent pas de la problématique santé et développement, mais méritent d'être mentionnées ici. Il s'agit de la crise de la dette des années 80 et du fait que les pays qui ont émergé dans les années 60 n'étaient pas soumis à la même concurrence internationale que celle que l'on connaît aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation. Il y a aussi deux explications qui relèvent directement de l'analyse des conditions de santé dans les pays africains. La première tient aux incertitudes qui pèsent sur les indicateurs de mesure des progrès de santé, notamment en Afrique. Les progrès qui sont recensés par les statistiques des Nations Unies sont en partie en contradiction avec des observations réalisées sur la base des données des enquêtes dites « démographie santé » conduites dans un grand nombre de pays africains. Spécifiquement, ces enquêtes peuvent être utilisées pour évaluer l'évolution de la taille des individus en fonction de leur année de naissance. Or, l'on sait qu'une augmentation de la taille est en général considérée comme corrélative des progrès en matière de santé et de nutrition. Les données d'enquête montrent que la taille des individus nés entre 1950 et 1980 n'a augmenté que dans 5 pays africains sur les 28 pays pour lesquels les données sont disponibles. Parmi les autres pays, 6 ont même connu une diminution tendancielle de la taille des individus. Même si l'évolution de la stature dépend à la fois de la nutrition et des conditions de santé, ces données paraissent peu compatibles avec les progrès en matière de santé, retracée dans les statistiques des Nations Unies depuis 1950, étant donné qu'au moins jusqu'au début des années 70, aucun indicateur ne révèle véritablement une aggravation des conditions d'alimentation en Afrique. Il est donc probable que les indicateurs de santé usuels présentent une vue exagérément optimiste de l'évolution de la santé en Afrique au cours des années 1950 à 1980. Une deuxième raison pouvant expliquer l'absence de sortie du piège de sous-développement en Afrique à partir des années 80 est évidemment l'apparition de l'épidémie du VIH-SIDA, qui a considérablement affecté les conditions de santé de nombreux pays de ce continent et conduit à un recul par rapport aux progrès observés antérieurement. L'espérance de vie a régressé dans toutes les régions africaines entre 1980-85 et 1995-2000. En Afrique australe, où les perspectives de développement étaient probablement les meilleures initialement, cette régression a même fait perdre en moyenne 8 années d'espérance de vie, ramenant ainsi cette région au niveau qu'elle avait atteint dans les années 60. Ainsi, un certain nombre de pays, qui n'avaient jamais été aussi près de réunir les conditions d'une sortie du piège de sous-développement qu'au début des années 80, en raison des progrès qu'ils avaient enregistrés en matière de capital humain, ont perdu une grande partie de cet acquis en l'espace d'une décennie par suite de la propagation de l'épidémie du VIH-SIDA. Il est donc plus que jamais nécessaire de faire des progrès en matière de santé en Afrique, ce qui appelle des réponses vigoureuses de la part des politiques de développement. La première réponse qui est souvent donnée face aux problèmes posés par le piège du sous-développement associé à la santé est d'augmenter les financements à la santé. C'est dans une large mesure la réponse donnée par un certain nombre de bailleurs de fonds qui a conduit à des initiatives telles que UNITAID, créées pour apporter des financements pour l'achat de médicaments destinés aux pays africains, ou plus exactement aux pays en développement. Toutefois, l'augmentation des financements à la santé ne peut à elle seule répondre aux problèmes posés. De plus en plus, les nouveaux financements disponibles pour le secteur de la santé sont nombreux et il faut se préoccuper de considérations d'efficacité dans l'utilisation de ces fonds et aussi, et surtout peut-être, de considérations d'équité. Un effort systématique a été fait en matière d'aide au secteur de la santé, notamment sous l'impulsion de la Commission sur la macroéconomie et la santé de l'Organisation mondiale de la santé, qui indiquait la nécessité d'accroître l'aide internationale à la santé de l'ordre de 4 milliards de dollars en 2001 à 27 milliards de dollars en 2007. Même si on est encore très loin de cette tendance souhaitée, l'effort en faveur du financement de la santé s'est accru dans les années récentes de manière considérable. De même, d'ailleurs, que le nombre d'intervenants a augmenté, à tel point qu'il devient difficile de tout simplement comptabiliser l'aide accordée au système de santé dans les pays en développement à l'heure actuelle. À l'action des bailleurs de fonds publics traditionnels s'ajoutent différentes initiatives d'ordre privé ou en partenariat public-privé, telles que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'aide publique au secteur santé et politique de population s'élevait en 2005 à environ 13 milliards de dollars, encore une fois, avec beaucoup d'incertitudes compte tenu des problèmes de recensement que j'ai mentionnés. Justifier une politique axée sur l'augmentation de l'aide dans le secteur de la santé suppose que la contrainte de financement soit le premier obstacle à l'amélioration de la santé dans les pays en développement. Cela n'est pas certain dans les pays pauvres, qui sont pour la plupart en Afrique. À l'intérieur de ce groupe de pays, on constate en particulier une absence totale de corrélation entre les dépenses de santé et l'état de santé de la population. Des pays comparables du point de vue de leurs revenus par habitant et de leur situation géographique ont des performances de santé comparables malgré des dépenses de santé extrêmement différentes. Je voudrais simplement donner un exemple. En Éthiopie, l'espérance de vie est de 50 ans pour des dépenses de santé de 20 dollars par habitant. En Ouganda, elle est légèrement inférieure pour des dépenses de santé de 75 dollars par habitant. Par conséquent, au-delà de la question du montant d'aide apporté au secteur de santé, il faut avant tout se préoccuper de l'efficacité de cette aide. Cette préoccupation est d'autant plus importante que la forte augmentation des budgets d'aide a en elle-même réduit son efficacité. Un premier niveau d'analyse est celui de savoir si l'aide allouée dans le secteur de la santé est destinée à des usages où cette aide a un impact maximal sur les conditions de santé. La comparaison des fardeaux relatifs à différentes maladies et de la distribution de l'aide qui est reçue pour y faire face suggère que cette distribution est très déséquilibrée. Les fonds destinés à la lutte contre le VIH-SIDA, certes nécessaires, et à la lutte contre les autres MST, qui représentent moins de 8% du fardeau de maladie, représentent près de 30% au total de l'aide dans le secteur de la santé. Maladies sexuellement transmissibles. À l'inverse, les maladies non contagieuses, qui représentent près de la moitié du fardeau de maladies, ne se voient attribuer qu'un peu plus de 20% de l'aide. Sachant que la lutte contre le VIH-SIDA, du moins dans sa composante traitement de la maladie, a un rapport coût-efficacité très défavorable, et cette composante traitement de la maladie est en très forte augmentation, le traitement des maladies, les dépenses pour la lutte contre le VIH-SIDA sont beaucoup moins efficaces que le traitement des maladies infectieuses courantes et de prévention contre le paludisme, les choix de paludisme et un certain nombre d'initiatives vaccinales. La question de l'efficacité des dépenses publiques dans le secteur de la santé pose une série de problèmes spécifiques dans le contexte de l'augmentation des budgets d'aide. Différents problèmes qui entravent le fonctionnement des systèmes de santé en Afrique ne peuvent pas être résolus simplement par l'augmentation de l'aide. La pénurie des personnels de santé est très grave et s'accroît en raison de l'émigration massive des personnels de santé qualifiés vers l'Europe et les États-Unis, notamment dans les pays très fortement touchés par l'épidémie du VIH-SIDA. L'accroissement de l'aide au secteur de la santé ne contribue pas sensiblement à résoudre ce problème, quand il ne l'aggrave pas, en raison de l'utilisation d'une partie des personnels qualifiés, notamment des médecins, qui sont restés dans leur pays, pour des tâches liées simplement à l'administration de cette aide. Cette pénurie quantitative est accrue par une absence de motivation des personnels de santé publique, faute de système d'incitation qu'il est bien difficile de mettre en place dans les cadres rigides du service public de nombreux pays africains. On peut parler d'une véritable crise des ressources humaines dans le secteur de la santé en Afrique, qui appelle des actions dans plusieurs dimensions, dont certaines ne peuvent pas reposer principalement sur l'aide financière extérieure, comme une meilleure gestion des personnels de santé, visant à améliorer l'utilisation des ressources humaines, à réduire l'absentéisme et à prévenir la corruption. Il y a des avancées possibles dans ces domaines. Le rapport 2006 de l'ONG Transparency International met en lumière la corruption dans les systèmes de santé, en Afrique comme ailleurs, mais donne aussi quelques exemples de réussite de la lutte contre cette corruption, comme le renforcement de la lutte contre la contrefaçon des médicaments au Nigeria, qui aurait permis de réduire de 80% la quantité de médicaments illégaux en circulation entre 2001 et 2004. Il est vrai que le Nigeria partait de très loin dans ce domaine. L'efficacité du système est par ailleurs réduite en raison d'un manque de coordination des différents intervenants entre eux et avec les gouvernements bénéficiaires. Les bailleurs de fonds traditionnels eux-mêmes ne se coordonnent que très imparfaitement, même si depuis la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide, des progrès sont envisageables pour l'avenir. La mise en place de stratégies sectorielles, cofinancées par des donateurs, permet de répondre en partie à ces problèmes, mais de manière imparfaite. L'aide n'est toujours pas alignée sur les priorités des gouvernements bénéficiaires. Ainsi, la part très grande attribuée au secteur de la lutte contre le VIH-SIDA ne correspond en général pas du tout aux priorités des gouvernements bénéficiaires de cette aide. L'affectation de l'aide à des objets particuliers n'est pas la seule source de complexité. D'après le Fonds monétaire international, seule une part minoritaire de l'aide transite par le budget des pays bénéficiaires, une grande partie de cette aide étant distribuée à travers des initiatives telles que le Fonds mondial et administrée par des structures souvent privées, parallèles aux structures publiques. Ces fonds internationaux, dont le nombre total a été évalué entre 60 et 75, représente une part importante, s'approchant du tiers, des nouveaux financements dans le secteur de la santé. Ces nouvelles initiatives ont le mérite d'avoir mobilisé des ressources supplémentaires pour la santé et de dynamiser l'action d'organisations communautaires et du secteur privé, mais la création de toutes ces nouvelles entités sur le terrain complique la tâche des gouvernements. En dehors des difficultés d'harmonisation ainsi créées, ces initiatives verticales déséquilibrent le secteur de la santé au détriment des programmes horizontaux destinés à améliorer le fonctionnement d'ensemble du service de santé publique. Elle crée un risque réel d'éviction, notamment en ce qui concerne les personnels de santé, dont l'insuffisance numérique est amplifiée par l'attraction de ces personnels vers ces nouveaux programmes disposant de ressources financières abondantes comparées à celles des budgets publics. Il contribue de ce fait à la réduction des moyens disponibles pour prendre en charge ce que les spécialistes appellent les maladies négligées, dont beaucoup, telles que les maladies respiratoires et entériques, pourraient être soignées à moindre coût. L'approche verticale n'est pas non plus favorable à l'intégration de la stratégie du secteur de la santé dans les stratégies de développement, alors que l'on sait qu'il est nécessaire d'avoir une approche intégrative. Les interactions déjà mentionnées de la santé avec l'éducation, l'accès à l'eau potable et à d'autres infrastructures publiques, et plus généralement avec le développement économique, doivent être prises en compte dans la politique de santé. La coordination entre les donateurs pourrait être partiellement renforcée par une division du travail entre eux. Des arrangements de coopération délégués dans lesquels un donateur agit pour le compte d'autres donateurs sont déjà utilisés dans certains cas, dans le secteur de la santé comme dans d'autres secteurs. Ces arrangements sont malheureusement plutôt moins fréquents en Afrique que dans les autres régions en développement. Il est également nécessaire de mener des réformes institutionnelles du secteur de la santé dans son ensemble, orientées vers la mise en place de systèmes de contractualisation, afin que les différents acteurs du secteur, publics, associatifs ou privés, et nationaux ou étrangers, travaillent en partenariat. Les problèmes de santé étant dans les pays pauvres fortement concentrés dans les couches les plus défavorisées de la population, la question de l'équité dans les politiques de santé se pose avec une très grande acuité. Il y a au niveau microéconomique, comme au niveau macroéconomique, un piège de pauvreté associé à la santé. Une famille frappée par la maladie de l'un de ses membres peut se retrouver durablement appauvrie du fait de la perte du revenu associé à la maladie et du coût de l'accès aux soins. Afin d'améliorer les conditions de santé de la population dans son ensemble, il faut donc porter une attention particulière aux pauvres, qui sont les premiers pour lesquels l'enclenchement d'un cercle vicieux entre détérioration des conditions de santé et approfondissement de la pauvreté peut se manifester. Différents travaux récents ont permis de progresser dans ce domaine, tant sur le plan conceptuel qu'empirique. Une première approche consiste à étudier l'incidence des bénéfices retirés des politiques de santé publique par les différentes catégories de la population. On peut ainsi évaluer quels sont les transferts implicites reçus par les différentes couches de la population à travers l'utilisation de ces services de santé publique. En Afrique, la réponse est presque invariablement que les pauvres sont faiblement bénéficiaires de ces politiques. Seule l'Afrique du Sud présente une politique de santé qui, globalement, ne défavorise pas les pauvres. En moyenne, en Afrique, le quintile le plus riche bénéficie de plus de deux fois plus de dépenses publiques de santé que le quintile le plus pauvre. L'inégalité d'accès aux dépenses de santé publique résulte en partie en Afrique, comparée aux autres régions en développement, de la distribution géographique de la population. Cette distribution, caractérisée par une faible urbanisation, n'est pas favorable à une égalité distributive, sauf si l'on développe systématiquement des centres de santé primaires sur tout le territoire, sachant que la très grande majorité de la population vit dans le monde rural. Ce sont les citadins qui bénéficient de l'essentiel des dépenses hospitalières en particulier. Des politiques de gratuité de certains soins, malgré leurs objectifs évidemment sociaux, peuvent contribuer elles-mêmes à l'inégalité de la distribution des dépenses publiques de santé. À titre d'exemple, la distribution gratuite des antirétroviraux, décrétée dans certains pays ces dernières années, comme par exemple au Mali, peut se transformer en subvention pour les individus les moins pauvres, étant donné que l'accès aux antirétroviraux est limité aux quelques centres de santé, principalement en ville, disposant de personnel qualifié pouvant administrer ce traitement. À l'inverse, il faut développer des services de santé ciblés sur les pauvres, ce qui suppose une politique de décentralisation et l'extension des centres de santé primaires. Des solutions originales utilisant les moyens modernes de communication peuvent aussi être envisagées. L'utilisation de la télémédecine, initiée depuis déjà quelques années, notamment au Sénégal, grâce à l'action de notre consoeur Guylaine Alajouanine, offre à cet égard des perspectives intéressantes. Sans surprise, les conditions de santé des couches les plus pauvres de la population sont nettement moins bonnes que celles des plus riches. Non seulement les pauvres bénéficient de relativement peu de dépenses publiques de santé, mais en plus, la majorité des dépenses de santé en Afrique sont privées plutôt que publiques et dépendent donc des revenus des ménages, y compris chez les ménages les plus pauvres. Des données publiées récemment par la Banque mondiale révèlent ainsi qu'en Afrique, les enfants du quintile le plus pauvre reçoivent environ 1,7 fois plus de risques de décéder avant l'âge de 5 ans que les enfants du quintile le plus riche, ont 2,6 fois plus de risques d'être affectés de rachitisme aigu et plus de 3 fois plus de risques d'avoir une insuffisance pondérale sévère. De ce point de vue toutefois, l'Afrique fait en général un peu mieux que d'autres régions, notamment l'Amérique latine, en partie en raison d'une inégalité de distribution des revenus moins forte que dans ces autres régions. L'approche précédente est toutefois plus en termes d'inégalité que d'inéquité. Pour juger de l'équité des politiques publiques de santé, il faut pouvoir évaluer si des individus présentant les mêmes besoins reçoivent les mêmes services de santé. Bien que des progrès importants aient été faits dans ce domaine sur le plan conceptuel, nous disposons encore de peu de données permettant de faire un bilan sur cette question. Les données publiées par la Banque mondiale permettent cependant d'étudier l'accès aux soins à besoins identiques en fonction de la richesse des ménages dans un certain nombre de cas. Ces données montrent que les politiques de santé sont inéquitables en Afrique, souvent plus qu'ailleurs. L'accès à un accouchement assisté et aux méthodes contraceptives pour les femmes est plus de 3 fois plus fréquent dans le quintile le plus riche que dans le quintile le plus pauvre. L'accès aux vaccins pour les enfants est également très concentré en Afrique, de même que l'accès aux soins en cas de fièvre, d'infection respiratoire et de diarrhée. Seule l'Asie du Sud fait de ce point de vue moins bien que l'Afrique. Toutes ces informations concourent à souligner le caractère inéquitable des politiques de santé publique en Afrique, ce qui réduit d'autant la capacité de ces politiques à contribuer à la réduction de la pauvreté. En conclusion, l'amélioration des conditions de santé en Afrique devrait être une priorité dans les politiques de développement, non seulement parce que l'Afrique est la région du monde où les conditions de santé sont les plus mauvaises, mais aussi parce que ces mauvaises conditions de santé contribuent à enfermer, au niveau macroéconomique, les économies africaines dans un piège de sous-développement et, au niveau microéconomique, de nombreux ménages africains dans un piège de pauvreté. L'expérience historique des pays émergents d'Asie montre que l'amélioration des conditions de santé a joué un rôle décisif au démarrage de leur processus de développement, à un moment où ces pays ne disposaient que de faibles ressources financières, quelles que ces ressources soient propres ou procurées par l'aide internationale. Faire des progrès en matière de santé en Afrique suppose des efforts qui vont bien au-delà de l'augmentation de l'aide financière internationale. Les initiatives récentes en ce sens ont leur utilité, mais elles ne peuvent se substituer à des réformes des systèmes de santé. Ceci est d'autant plus vrai que les grands programmes verticaux qui ont été lancés peuvent contribuer à la désorganisation des systèmes de santé en raison des effets d'éviction qu'ils créent sur les ressources locales, notamment en personnel de santé qualifié. Ceci se fait notamment au détriment de la prise en charge des maladies négligées. Ces réformes requièrent de trouver des solutions à la crise des ressources humaines dans les secteurs de la santé, de créer un partenariat entre les acteurs du système de santé par la mise en place de politiques de contractualisation, d'intégrer la politique de santé dans la politique de développement et dans les stratégies de réduction de la pauvreté. La question de l'équité dans les politiques publiques de santé se pose aussi avec une acuité particulière en Afrique. Il est nécessaire de mener des actions ciblées sur les pauvres. Compte tenu du rôle que joue la santé dans les pièges de pauvreté, ces considérations d'équité doivent être mises en avant et au premier rang, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi tout simplement pour renforcer l'efficacité des politiques de santé. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre la communication de Jean-Claude Berthélémy, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son intervention avait pour titre « Santé et développement en Afrique ». C'était le 26 novembre 2007 à l'Académie des sciences morales et politiques.